Chapitre 24. Du voyage des Arendil et de la guerre de la colère. Et Arendil le brillant était alors seigneur de ses gens établis aux bouches du Sirion. Et il prit pour épouse Elwing la Belle, et elle lui donna Elrond et Elros, que l'on appelle les semi-elfes. Et Arendil ne trouvait néanmoins aucun repos, et ses voyages sur le littoral des terres citérieures n'apaisèrent pas son inquiétude. Deux aspirations grandirent en son cœur, fondues en une seule dans sa nostalgie de la grande mer. Il souhaitait y naviguer, à la recherche de Tuor et Idril, qui ne revenaient point, et il pensait peut-être gagner l'ultime rivage et porter, avant de mourir, le message des elfes et des hommes aux Valar de l'Ouest, afin d'implorer pitié pour les chagrins de la terre du milieu. Or, Earendil se lia d'amitié avec Círdan, le charpentier de Nef, qui vivait sur l'île de Balar avec les siens, rescapé du sac des havres de Brithombar et des Glarest. Avec l'aide de Círdan, Earendil construisit Vingiloth, la fleur d'écume, le plus beau navire jamais chanté. Ses rames étaient dorées et sa membrure blanche, sculptée dans les boulets de Nimbrethil, et ses voiles telles la lune argentine. Dans le lait des Arendil sont racontés de nombreux faits touchant à ses aventures en haute mer et en pays inexplorés, dans mains océans et maintes îles. Mais Elwing n'était pas à ses côtés et restait à se morfondre aux bouches du Sirion. Et Arendil ne trouva point Tuor ni Idril, pas plus qu'il n'atteignit les côtes du Valinor au cours de ce voyage, vaincu par les ombres et l'enchantement, poussé par des vents contraires jusqu'à ce que, pressé de revoir Elwing, il mit le cap sur la maison et les rivages du Beleriand. Et son cœur le hâtait, car une peur soudaine s'était emparée de lui en rêve, et les vents qu'il combattait naguère ne pouvaient désormais le ramener aussi vite qu'il le désirait. Or, quand Maedros apprit qu'Elwing vivait encore et qu'elle tenait le Silmaril en sa possession près des bouches du Sirion, il montra d'abord du repentir pour les crimes commis au Doriath et s'abstint d'agir. Mais avec le temps, la hantise du serment resté inaccompli revint les tourmenter, lui et ses frères. Et ils se réunirent au bout de leurs errances sur les sentiers de chasse et envoyèrent des messages d'amitié au Havre, mais aussi leurs strictes requêtes. Elwing et le peuple du Sirion refusèrent alors de céder le joyau que Beren avait conquis, que Lúthien avait porté, et pour lequel Dior le Beau avait été tué. Et ce, d'autant plus que leur seigneur et Arendil étaient en mer, car il leur semblait devoir au Silmaril toute la protection et la bénédiction dont jouissaient leur maison et leur navire. Et c'est ainsi qu'advint le dernier des massacres entre elfes et elfes, le dernier et le plus cruel, et le troisième des grands préjudices causés par le serment maudit. Car les fils de Fëanor qui vivaient encore s'avancèrent à l'improviste contre les exilés de Gondolin et les survivants du Doriath, et ils les anéantirent. Certains de leurs suivants restèrent à l'écart de cette bataille, d'autres se rebellèrent et furent tués dans le camp adverse en voulant aider Elwing contre leur propre seigneur. Car tels étaient le désarroi et la confusion dans les cœurs des Eldar en ce temps-là. Et si Maedros et Maglor eurent le dessus, ils restèrent les deux seuls fils de Fëanor, car Amrod et Amras tombèrent tous deux. Quand les navires de Círdan et du grand roi Gil-galad arrivèrent en hâte pour prêter main forte aux elfes du Sirion, il était déjà trop tard, et ni Elwing ni ses fils n'y étaient plus. Les rares survivants de l'attaque se joignirent alors à Gil-galad et l'accompagnèrent à Balar. Et selon leur dire, Elros et Elrond avaient été faits prisonniers. Mais Elwing, le Silmaril sur sa poitrine, s'était jeté à la mer. Maedros et Maglor, donc, n'obtinrent pas le joyau. Mais celui-ci n'était pas perdu. Car Ulumo souleva Elwing au-dessus des vagues et lui donna l'aspect d'un grand oiseau blanc. Et le Silmaril scintillait comme une étoile sur sa poitrine, tandis qu'elle volait au-dessus des eaux pour aller trouver Earendil, son bien-aimé. Et une nuit, Earendil, à la barre de son navire, la vit s'approcher, comme un nuage blanc passant sous la lune avec fugacité, comme une étoile suivant une course étrange au-dessus de la mer, flamme claire sur des ailes de tempête. et l'on chante qu'elle tomba du haut des airs sur la passerelle de Vingilot en pâmoison, et près de mourir, tant elle avait mis d'ardeur à son vol, et qu'Arendil la serra contre sa poitrine. Mais au matin, d'un regard émerveillé, il vit son épouse dans sa forme véritable tout contre lui, ses cheveux frôlant son visage, et elle dormait. Et Arendil et Elwing conçurent un grand chagrin de la ruine des havres du Sirion et de la captivité de leur fils, craignant qu'ils ne fussent tués. Mais il n'en fut pas ainsi, car Maglor eut pitié d'Elros et d'Elrond, et il les chérit, et l'amour grandit plus tard entre eux, contre toute attente. Mais Maglor était là et dégoûté du terrible serment qui pesait sur son cœur. Or, Earendil ne voyait plus aucun espoir pour la Terre du Milieu, et de découragement, il fit à nouveau demi-tour sans retourner chez lui, et il repartit en quête du Valinor avec Elwing à ses côtés. Dès lors, il eut coutume de se tenir à la proue de Vingilot, le Silmaril attaché sur son front, et sa lumière grandissait toujours plus, tandis qu'ils avançaient dans l'ouest. Et les sages ont dit que c'est grâce au pouvoir de ce joyau sacré s'ils arrivèrent enfin dans ces eaux qui n'étaient connues d'aucun vaisseau, hormis ceux des Teleri. Et ils parvinrent dans les îles enchantées et éludèrent leurs enchantements. Et ils parvinrent dans les mers ombreuses et traversèrent leurs ombres. Et ils contemplèrent Tol Eressëa, l'île solitaire, mais ne s'attardèrent point. Enfin, ils jetèrent l'ancre dans la baie d'Eldamar, et les Teleri observèrent avec stupéfaction l'arrivée de ce navire venu de l'Est, discernant au loin la lumière du Silmaril, et elle était très vive. Lor et Arendil fut le premier des hommes à débarquer de son vivant sur les rivages immortels. Et là, il s'adressa à Elwing et à ceux qui l'accompagnaient, trois marins qui avaient sillonné les mers à ses côtés. Falathar, Ereront et Aerandir étaient leurs noms. Et Arendil leur dit « Ici nul autre que moi ne mettra pied à terre, de crainte d'attirer sur vous la colère des Valar. Mais seul, j'encourrai moi-même ce péril pour le bien des deux peuples. » Mais Elwing répondit « Nos chemins seraient alors séparés pour toujours, mais tous les périls que tu encours, je les prendrai sur moi aussi. » Et elle bondit dans l'écume blanche et courut vers lui. Mais Earendil s'affligea, car il craignait le courroux des seigneurs de l'Ouest contre tous ceux de la Terre du Milieu qui oseraient pénétrer dans l'enceinte d'Aman. Et là, ils dirent adieu à leurs compagnons de voyage et leur furent ravis à jamais. Lor et Arendil dit à Elwing « Attends-moi ici, car un seul peut s'acquitter de la mission que le sort m'a confiée. » Et il monta seul dans les terres et entra dans la Kalakiria qui lui parut vide et silencieux. Car à l'instar de Morgoth et d'Ungoliant au temps jadis, Earendil arrivait à l'occasion d'une fête, et presque toute la gent elfique était partie à Valimar ou rassemblée dans les halles de Manwë sur le Taniquetil, et très peu étaient restés pour faire le guet sur les murailles de Tirion. Mais il y en eut qui l'aperçurent de loin, ainsi que la vive lumière qu'il portait, et ils se rendirent en toute hâte à Valimar. Mais Earendil gravit la verte colline de Tuna, et la trouva nue. Et il pénétra dans les rues de Tirion, et elles étaient vides. Et son cœur se serra, car il craignait que quelque mal ne soit advenu, même dans le royaume béni. Il foula les chemins déserts de Tirion, et la poussière sur son vêtement et ses chaussures était celle de diamants. Et il brillait et étincelait en gravissant les longs escaliers blancs. Et il appela à grands cris dans plusieurs langues, tant des elfes que des hommes. Mais il n'y avait personne pour lui répondre. Ainsi, il tourna de nouveau ses regards vers la mer, mais alors même qu'il prenait le chemin du rivage, quelqu'un se tint sur la colline et l'appela d'une voix sonore, criant « Salut, Earendil, marin des plus illustres, lui qu'on attendait et qui vient à l'improviste, lui qu'on espérait et qui vient contre tout espoir. Salut, Earendil, porteur de lumière d'avant la lune et le soleil. » Splendeur des enfants de la terre, étoile dans l'obscurité, joyau du couchant, rayonnant au matin. » Cette voix était celle d'Eonwë, héros de Manwë, et il arrivait de Valimar pour convoquer Earendil devant les puissances d'Arda. Et Earendil entra en Valinor, et dans les halles de Valimar, et il ne posa jamais plus le pied en terre des hommes. Lors les Valar tinrent conseil ensemble, et ils rappelèrent Ulmo des profondeurs de la mer. Et Earendil se tint sous leur regard et délivra le mandat des deux peuples. Il implora le pardon pour les Noldor, et la pitié pour leurs immenses peines, la miséricorde pour les hommes et les elfes, et du secours dans leur détresse. Et sa prière fut exaucée. On dit chez les elfes que lorsque Earendil fut parti pour retrouver son épouse Elwing, Mandos évoqua le sort qui l'attendait, et il dit « Souffrira-t-on qu'un mortel foule de son vivant les terres où la mort ne vient pas et continue de vivre ?» Mais Ulmo dit à Mandos « C'est bien pour cela qu'il est venu au monde. Et dis-moi, Earendil est-il fils de Tuor de la lignée de Hador ou bien fils d'Idril, la fille de Turgon de la maison elfique de Finwë ?» Et Mandos répondit « Les Noldor non plus, qui ont volontairement choisi l'exil, ne peuvent revenir ici. » Mais quand tous furent entendus, Manwë rendit son jugement, et il dit « En cette affaire, l'autorité du sort m'est dévolue. Le péril qu'il a couru par amour pour les deux peuples ne s'abattra pas sur Earendil, pas plus qu'il ne tombera sur Elwing, son épouse, qui s'est mise en péril par amour pour lui. » Mais jamais plus ils n'iront parmi les elfes et les hommes dans les terres extérieures. Et voici mon décret les concernant. À Earendil et Elwing, ainsi qu'à leurs fils, il sera donné de choisir chacun librement auquel des peuples leur destin sera uni, et sous lequel ils seront jugés. Or, Elwing se sentait seule et elle prit peur, car Earendil était parti depuis longtemps. Et elle erra le long des côtes jusqu'à l'Alqualondë, où mouillait la flotte Telerine. Là, les Teleri la prirent en amitié, et ils prêtèrent l'oreille à ses récits du Doriath et de Gondolin, et des malheurs du Beleriand, pleins de compassion et d'étonnement. Et c'est là qu'Arendil la retrouva, au Havre des Cygnes. Mais avant peu, ils furent convoqués à Valimar, où le décret du roi vénérable leur fut déclaré. Lors, Earendil dit à Elwing « Choisis donc, car je suis maintenant là du monde. » Et Elwing choisit d'être jugé parmi les premiers-nés des enfants d'Ilúvatar à cause de Lúthien. Et par amour pour elle, Earendil choisit de même, bien que son cœur penchât plutôt du côté des hommes et de la lignée de son père. Puis, sur l'injonction des Valar, Eonwë s'enfuit au rivage d'Aman, où les compagnons d'Earendil demeuraient encore dans l'attente de nouvelles. Et il prit un bateau, et les trois marins y furent embarqués, et les Valar les renvoyèrent dans l'est sous un grand vent. Mais ils prirent Vingiloth et le consacrèrent, et ils le halèrent à travers le Valinor jusqu'à la lisière du monde. Et là, il passa la porte de la nuit, et fut soulevé à même les océans du firmament. Or, ils en firent un vaisseau d'une merveilleuse beauté, imprégné d'une flamme scintillante, claire et pure. Et Earendil le marin se tenait à la barre, et sur lui étincelait une poussière de joyaux elfes, et le Silmaril luisait à son front. Loin il navigua à bord de ce navire jusqu'au vide sans étoiles, mais on l'apercevait le plus souvent au matin ou au soir, brillant dans le levant ou le couchant, lorsqu'il rentrait en Valinor de ses voyages au-delà des confins du monde. Elwing ne l'accompagnait pas dans ses expéditions, car elle n'eut enduré ni le froid ni l'insondable vide, et elle préférait la terre et les douces brises qui soufflent sur la mer et les collines. Dans le nord, donc, on construisit pour elle une tour blanche au bord des mers séparatrices, et tous les oiseaux marins de la terre avaient coutume d'y séjourner de temps à autre. Et l'on dit qu'Elwing apprit les langues des oiseaux, dont elle-même avait jadis revêtu la forme. Et ils lui apprirent l'art de voler, et ses ailes étaient de blanc et de gris-argent. Et parfois, quand Earendil revenait vers Arda, elle volait à sa rencontre comme elle l'avait fait longtemps auparavant, lorsqu'elle avait été secourue des eaux. Alors, ceux des elfes qui avaient la vue claire et qui demeuraient dans l'île solitaire la voyaient comme un oiseau blanc, lumineuse, teintée de rose dans le couchant, tandis qu'elle s'élançait d'allégresse pour saluer l'arrivée de Vingiloth au Havre. Or, quand Vingilot fut lancé pour la première fois dans les océans du firmament, il surgit à l'improviste, clair et étincelant. Et les gens de la terre du milieu l'aperçurent au loin et s'émerveillèrent, voyant en lui un signe. Et ils l'appelèrent Gil-Estel, l'étoile de grande espérance. Et lorsque cette nouvelle étoile apparut au crépuscule, Maedros dit à son frère Maglor « Voilà sûrement un Silmaril scintillant dans l'ouest. » Et Maglor répondit « S'il s'agit bien du Silmaril que nous avons vu jeté à la mer et qui par le pouvoir des Valar en est ressurgi, alors réjouissons-nous, car sa gloire est désormais visible à tous, tout en étant préservée du mal. » Alors les elfes relevèrent la tête et renoncèrent au désespoir. Mais Morgoth fut assailli de doutes. Pourtant, on dit que Morgoth n'avait pas prévu l'assaut qui se déchaîna sur lui depuis l'ouest, car son orgueil était devenu tel qu'il croyait que nul n'oserait plus jamais entrer en guerre ouverte contre lui. Il pensait en outre que les seigneurs de l'ouest étaient à jamais aliénés des Noldor et que, dans la félicité de leur terre, les Valar ne se soucieraient plus de son royaume dans le monde extérieur. Car pour qui est sans pitié, les œuvres de miséricorde resteront toujours étranges et impénétrables. Mais l'armée des Valar s'ébranla, et les Vanyar, les gens d'Ingwe, marchèrent sous leur bannière blanche, et aussi ceux des Noldor qui n'avaient jamais quitté le Valinor, sous la conduite de Finalfin, le fils de Finwë. Chez les Teleri, il y eut peu de volontaires, car ils se souvenaient du massacre de Havre aux Cygnes et de la prise de leur navire. Mais ils écoutèrent Elwing, qui était fille de Dior et Lúkil, et leur était apparentée. Et ils envoyèrent des marins en nombre suffisant pour manœuvrer les navires qui transporteraient l'armée du Valinor outre-mer. Ils restèrent toutefois à bord des vaisseaux et aucun ne débarqua sur les terres citérieures. Il n'est aucun récit pour rendre compte de l'avancée des Valar dans le nord de la terre du milieu, car leurs troupes ne comptaient aucun de ces elfes qui avaient vécu et souffert dans les terres citérieures, et de qui nous tenons les chroniques de ces jours. Et ce n'est que longtemps après qu'ils eurent vent de ces choses par le truchement de leurs semblables en Aman. Mais enfin, la puissance du Valinor s'éleva depuis l'ouest, et le défi des trompettes d'Eonwë emplit le ciel. Et le Beleriand fut embrasé par la splendeur de leurs armes, car la cohorte des Valar s'était parée de formes jeunes, belles et terribles, et les montagnes résonnaient sous leurs pas. La rencontre des armées de l'ouest et du nord est surnommée la Grande Bataille et la Bataille de la Colère. Le trône de Morgoth y déploya toute sa puissance, devenue si incommensurable que la plaine d'Anfauglith ne pouvait la contenir. Et le nord tout entier fut enflammé par la guerre. Mais rien n'y fit. Les Balrogs furent détruits, à l'exception de quelques-uns, qui s'enfuirent et se terrèrent dans les cavernes inaccessibles aux racines de la terre. Et les innombrables légions des orques périrent comme de la paille au feu, ou furent balayés comme des feuilles mortes par un vent d'incendie. Il en resta bien peu pour venir troubler le monde pendant de longues années, et les survivants des trois maisons des Amis des Elfes, les Pères des Hommes, se battirent aux côtés des Valar. Et ils accomplirent enfin leur vengeance pour Baragund et Barahir, Galdor et Gundor, Uor et Urin, et bien d'autres de leurs seigneurs. Mais une bonne part des fils des hommes, ceux du peuple d'Uldor et d'autres nouvellement arrivés de l'Est, marchèrent avec l'ennemi. Et les elfes ne l'ont pas oublié. Puis, voyant ses armées vaincues et sa puissance en déroute, Morgoth trembla, et il n'osa pas se montrer lui-même. Mais il lâcha contre ses adversaires le dernier assaut qu'il avait prévu en désespoir de cause. Et des basses fosses d'Angband surgirent les dragons ailés qui n'avaient encore jamais été vus. Et la charge de cette terrible escadre fut si soudaine et si dévastatrice que l'armée des Valar dut battre en retraite, car avec les dragons vinrent un grand déchaînement de tonnerres et d'éclairs et une tempête de flammes. Mais Earendil apparut, éclairé d'un feu blanc, et autour de Vingilot étaient rassemblés tous les grands oiseaux du firmament, avec Thorondor pour capitaine. Et la bataille des airs se poursuivit tout le jour jusque dans la nuit, pleine d'ombre et de doutes. Avant le lever du soleil, Earendil terrassa Ancalagon le Noir, le plus puissant de toute la horde de dragons, et le fit déchoir du ciel. et il s'écrasa sur les tours du Thangolodrim qui furent renversées dans sa chute. Alors le soleil apparut, et l'armée des Valar triompha. Et presque tous les dragons périrent, et toutes les basses fosses de Morgoth furent démantelées et mises au jour, et la puissance des Valar descendit dans les profondeurs de la terre. Là, Morgoth se tint enfin aux abois. Pourtant, il se montra lâche. Il s'enfuit dans les profondeurs de ses mines et implora la paix et le pardon. Mais ses pieds furent tranchés dessous lui et il fut jeté face contre terre. On lui passa la chaîne Angainor qu'il avait portée autrefois et on bâtit sa couronne de fer en un collier qu'on lui accrocha au cou et sa tête se courba sur ses genoux. Et les deux Silmarils qui restaient à Morgoth furent arrachés à sa couronne et brillèrent à nouveau sous le ciel dans toute leur pureté. Et Éonwë les prit et les garda. Ainsi mit-on un terme au pouvoir d'Angband dans le nord. Le royaume maléfique fut réduit à néant, et hors des profonds cachots, une multitude d'esclaves s'avança contre tout espoir dans la lumière du jour et contempla un monde transformé. Car la furie des adversaires avait été si grande que les régions septentrionales du monde occidental furent déchirées en morceaux, et la mer gronda et se déversa dans de nombreux gouffres, et il y eut grand bruit et grand désordre. Et les rivières disparurent ou trouvèrent de nouveaux lits, et les vallées furent comblées et les collines aplaties, et le Silion cessa d'exister. Lors Éonwë, en tant que héros du roi vénérable, appela les elfes du Beleriand à quitter la terre du milieu. Mais Maedros et Maglor n'y voulurent rien entendre, et ils se proposaient, non sans lassitude et avec une grande répugnance, de tenter coûte que coûte d'accomplir leur serment, car ils étaient prêts à livrer bataille pour les Silmarils s'ils ne leur étaient pas rendus, même contre l'armée victorieuse du Valinor, quand bien même ce fut envers et contre tous. Et ils envoyèrent un message à Éonwë, lui enjoignant de leur remettre sur le champ les joyaux faits autrefois de la main de Fëanor leur père, et que Morgoth lui avait volés. Mais Éonwë répondit que le droit sur l'œuvre de leur père, auquel les fils de Fëanor pouvaient jadis prétendre, n'était désormais plus valable, à cause des nombreux forfaits qu'ils avaient commis, aveuglés par leur serment, surtout le meurtre de Dior et l'attaque contre les Havres. La lumière des Silmarils irait à présent dans l'ouest, d'où elle tirait son origine. Et Maedros et Maglor devaient retourner en Valinor pour y entendre le jugement des Valar, qui seul permettrait à Éonwë de céder les joyaux dont il avait la charge. En vérité, Maglor désirait se soumettre, car il avait le cœur chagrin, et il dit « Le serment ne nous interdit pas d'attendre, et il se peut qu'en Valinor tout soit pardonné et oublié, et que nous recevions notre dû sans troubler la paix. » Mais Maedros répondit que s'il retournait en Aman, et que la faveur des Valar leur était refusée, ils continueraient d'être tenus par leur serment sans pouvoir espérer l'accomplir. Et il dit « Qui sait quel terrible destin nous attend si nous désobéissons aux puissances dans leur propre pays, ou si jamais nous entendons ramener la guerre dans leur royaume béni ?» Mais Maglor insista, disant « Si Manwë et Varda eux-mêmes refusent l'accomplissement d'un serment pour lequel nous les avons pris à témoin, celui-ci n'est-il pas tenu comme nul ?» Et Maedros répondit « Mais comment notre voix pourrait-elle rejoindre Ilúvatar au-delà des cercles du monde ? Dans notre folie, nous avons juré au nom d'Ilúvatar et attiré sur nous les ténèbres éternelles si nous ne tenions parole. Qui nous libérera ?»« Si nul ne peut nous libérer, » dit Maglor, « les ténèbres éternelles seront certainement notre lot, que nous tenions notre serment ou le brisions, mais nous causerons moins de mal en le brisant. » Mais il finit par céder à la volonté de Maedros, et ils tinrent conseil ensemble en vue de mettre la main sur les Silmarils. Et ils se déguisèrent, et pénétrèrent nuitamment dans le camp d'Éonwë, et ils se glissèrent jusqu'à l'endroit où l'on gardait les Silmarils. Et ils tuèrent les gardes, et s'emparèrent des joyaux. Tout le camp fut alors alerté contre eux, et ils s'apprêtèrent à mourir et à se défendre jusqu'au terme. Mais Éonwë s'opposa à ce que l'on tue les fils de Fëanor, et ils s'enfuirent au loin sans être combattus. Chacun d'eux prit un Silmaril pour lui-même, car ils dirent « Comme l'un d'eux nous échappe et que deux seuls subsistent, comme autant de frères, il est clair que le sort a voulu que nous partagions l'héritage de notre père. » Mais le joyau brûla la main de Maedros d'une douleur insoutenable, et il comprit qu'Eonoé avait dit vrai, qu'il n'y avait plus droit, que le serment était vain. Et en proie à la souffrance et au désespoir, il se jeta dans un gouffre rempli de feu, et finit ainsi. Et le Silmaril qu'il détenait fut emporté dans le sein de la terre. Et l'on dit de Maglor qu'il ne put supporter la douleur que lui causait le Silmaril, et il finit par le jeter à la mer, et ne cessa d'errer désormais sur le rivage, chantant sa douleur et son regret auprès des vagues. Car Maglor était parmi les plus grands chanteurs de jadis, sinon le plus grand, après Daeron du Doriath. Mais il ne revint jamais parmi les peuples des elfes. Ainsi advinrent les Silmarils à leur demeure pérenne. L'un dans les airs du firmament, l'un dans les flammes au cœur du monde, et le dernier au plus profond des eaux. En ce temps-là, on construisit force navires sur les rivages de la mer de l'Ouest. Et là, de nombreuses flottes des Eldar firent voile dans l'Ouest pour ne plus jamais revenir dans ce pays de larmes et de luttes. Et les Vanyards s'en retournèrent sous leur bannière blanche et furent portés en triomphe en Valinor. Mais leur joie dans la victoire fut diminuée, car ils revenaient sans les Silmarils de la couronne de Morgoth, et ils savaient que ces joyaux ne pourraient être recouvrés ou de nouveau réunis, à moins que le monde fût brisé puis refait. Et lorsqu'ils arrivèrent dans l'Ouest, les elfes du Beleriand s'établirent à Tol Eressëa, l'île solitaire, qui regarde à la fois vers l'ouest et vers l'est, d'où ils pouvaient se rendre en Valinor même. Ils furent de nouveau admis à l'amour de Manwë et au pardon des Valar, et les Teleri enterrèrent leur ancien grief et la malédiction fut dissipée. Néanmoins, tous ceux de l'Eldalié n'étaient pas prêts à abandonner les terres citérieures où longtemps ils avaient souffert et longtemps avaient vécu. Et certains demeurèrent en terre du milieu pendant des âges encore. Parmi eux se trouvaient Kildan, le charpentier de Nef, et Celeborn du Doriath, et son épouse Galadriel, seule survivante parmi tous ceux qui avaient conduit les Noldor en exil dans le pays de Beleriand. En terre du milieu vivait aussi le grand roi Gil-galad, et avec lui Elrond, le semi-elfe, qui, devant le choix qui s'offrait à lui, élut le destin des Eldar. Mais son frère Elros choisit de rester parmi les hommes. Et seuls ces deux frères ont transmis aux hommes le sang des premiers-nés et une part de ces esprits divins qui furent avant Arda. Car ils étaient les fils d'Elwing, fille de Dior, fils de Lúthien, l'enfant de Thingol et de Melian. Et Earendil, leur père, était le fils d'Idril Celebrindal, la fille de Turgon de Gondolin. Quant à Morgoth, les Valar le jetèrent par la porte de la nuit en dehors des murailles du monde, dans le vide intemporel. Et cette porte est à jamais gardée. Et Earendil fait sentinelle sur les remparts des cieux. Et pourtant, les mensonges semés dans le cœur des elfes et des hommes par Melkor, le formidable et le maudit, Morgoth Baoglir, la puissance de la terreur et de la haine, sont une semence qui ne meurt point et qui ne peut être détruite. De temps à autre, elle produit de nouvelles pousses, et elle portera ses fruits noirs jusqu'au dernier des jours. Ici se termine le Silmarillion. S'il a déchu de la beauté et la grandeur dans les ténèbres et la ruine, c'était là autrefois le sort d'Arda Marie. Et si un changement doit survenir pour remédier au marissement, Manwë et Varda le savent peut-être, mais ils ne l'ont pas révélé, ni aucune des prophéties de Mandos.